Bonjour et bienvenue dans l'émission des éclats de lyre. Éric Sanvoisin écrit des livres pour la jeunesse. Ses domaines de prédilection sont les littératures de l'imaginaire, mais il excelle également dans le réalisme. Bonjour Éric Sanvoisin.
Oui, bonjour Julie.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Oui, merci beaucoup. Vous dites que... Vous pouvez dire dans certaines interviews que vous écrivez depuis l'âge de 10 ans. Ça fait donc pas mal de temps.
Oui, ça fait beaucoup. Oui.
Ouais. Je ne connais pas votre âge actuel, par contre. Mais qu'est-ce qui a déclenché pour vous ce goût des histoires dans l'enfance ?
En fait, ce n'est pas les livres, ce n'est pas la lecture. Parce qu'à cet âge-là, je n'étais pas du tout lecteur. Je considérais que lire était du temps perdu. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à écrire. En fait, c'était un petit peu comme un jeu pour moi. Comme j'aurais commencé à dessiner, moi, en fait, j'ai commencé à écrire une histoire, alors que je ne lisais pas. Et c'était vraiment un jeu. Et l'histoire, j'ai écrit une histoire très très longue qui faisait 3 pages, mais pour moi, 3 pages, à 10 ans, c'était énorme. Et j'ai pris tellement plaisir à l'écrire, même si c'était très mal écrit, évidemment, parce que je ne savais pas écrire. J'ai pris tellement de plaisir à inventer des personnages, à les faire parler, que j'en ai commencé une deuxième, et puis une troisième, et en fait, ça ne s'est plus jamais arrêté.
J'imagine qu'entre-temps, vous vous êtes quand même mis à la lecture ?
Exactement. En fait, en arrivant au collège, je me rendais bien compte que je ne savais pas écrire, et que j'avais plein de choses à apprendre, et je ne savais pas comment les apprendre. Et je me suis dit... Peut-être qu'en ouvrant les livres des autres, je vais apprendre des trucs ou apprendre des choses qui vont m'aider à mieux écrire mes propres histoires. Et donc j'ai commencé à lire un roman et je me suis aperçu en fait que j'aimais ça.
Et à cette époque...
J'ai plongé ce roman, c'était en vivant, je peux dire à partir de la sixième, et je me suis mis à lire énormément. C'est-à-dire que je suis passé de 0 lecture à plein de lectures, mais ça c'est grâce à l'écriture.
D'accord.
L'écriture m'a permis de découvrir que j'aimais lire.
C'est marrant, c'est l'inverse en général, il me semble.
Exactement, moi j'ai fait des choses à l'envers. Quand je dis ça aux gamins, souvent ça les surprend, parce que moi c'est pas logique.
Et quand vous étiez jeune, est-ce que vous vous souvenez des auteurs ou des livres qui vous ont marqué ?
Alors, les tout premiers livres que j'ai lus, je pense que j'ai dû lire le Club des Cinq. J'en ai lu pas mal, c'était la première série dans laquelle je suis tombé. Et puis j'ai lu d'autres séries comme ça, et après j'ai continué à grandir, et en grandissant, je suis mis à lire de la science-fiction. Et pendant à peu près une dizaine d'années, j'ai lu quasiment, pas que, mais quasiment que de la science-fiction. La science-fiction pour adultes, hein, c'était pas... À mon époque, il y avait très très peu de collections jeunesse, et en science-fiction, il n'y en avait pas du tout. J'adorais les mondes futuristes et c'est cette imagination-là, j'adorais ça et j'en écrivais aussi. Hein. Donc au fil, je me suis mis à en écrire à partir du moment où j'ai commencé à en lire. Et il y a un des livres qui m'a le plus marqué quand j'étais pré-ado et que j'ai lu plusieurs fois, bien avant qu'on en fasse des films, c'est Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Et j'ai tellement aimé ce livre, j'aurais tellement aimé l'écrire. Mais je n'aurais pas été capable. Du coup, je l'ai lu plusieurs fois. Et vraiment, c'est un univers qui m'a fasciné. Et puis, c'est aussi très, très bien écrit. C'est ça aussi qu'il faut dire. Hein. C'est pas juste un univers imaginé. C'est aussi très, très bien écrit. C'est très riche.
Moi, j'ai lu quelques-uns de vos livres et je vois que vous naviguez quand même entre plusieurs styles, mais d'un côté, le fantastique ou le réalisme. À vous entendre, c'est quand même le fantastique ou même la fantasy qui est votre domaine de prédilection, du moins les littératures de l'imaginaire.
En fait, c'est le fantastique. J'ai fait un peu de fantasy maintenant pour les plus jeunes, mais je pense que justement, c'est grâce à Tolkien,
ouais,
qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Je pense qu'il y a une influence qui a mis très très longtemps en fait à rejaillir. Je pense que ça vient de la lecture de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Alors, j'ai pas voulu faire Tolkien, évidemment, hein, ça n'a rien à voir. Moi, je voulais m'adresser à des plus jeunes. Je voulais écrire de la fantasy sous forme de trilogie, mais justement pour des enfants à partir de 7-8 ans. Parce que justement, ça n'existait pas dans ce domaine-là.
Oui,
c'était intéressant de faire quelque chose qui n'existait pas.
C'était ça ma question. Vous êtes, enfin, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes en même temps que vous qui faisaient de la fantasy pour les plus jeunes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été précurseur ?
Pas vraiment. Il y en avait un petit peu, mais pas beaucoup. Et en tous les cas, pas sur cette forme-là pour les plus jeunes. Alors les trilogies pour les adolescents, pour les adultes, il y en a beaucoup en fantasy. Mais pour cette tranche d'âge-là, il n'y en avait pas. Il y avait
ce qui est un peu plus jeune, plutôt pour les pré-ados, fin de l'enfance, c'est ça ?
Oh, là, c'est vraiment, moi, ce que j'ai cru, c'est vraiment pour les 7-8 ans. Hein. Ouais. C'est des premières lectures. Hein.
Donc là, on parle par exemple... Trilogie.
Comment ?
On parle par exemple de la série du Buveur d'encre.
Voilà, ça, c'est vraiment du fantastique pur, du fantastique moderne. C'est à peu près la même tranche d'âge. Hein. L'Enfant Dragon ou le Buveur d'encre, c'est à peu près la même tranche d'âge. Donc, moi, je considère que c'est quasiment des premières lectures. On va dire CE1, à partir du CE1, CE2, voilà.
Et cette série, Le Buveur d'encre, ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Est-ce qu'elle est clos aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est clôturée ?
Non, elle n'est pas encore clôturée. Et alors, le premier a été écrit il y a 30 ans, puisqu'on fête les 30 ans cette année,
voilà.
Du Buveur d'encre, 1996. Donc, au départ, ce n'était pas prévu pour être une série. Le livre devait être tout seul. Et puis, j'ai tellement aimé les personnages. Les deux personnages principaux de l'histoire, c'est un petit garçon qui s'appelle Odilon et puis le Buveur d'encre, hein, qui est un vampire littéraire. J'ai tellement aimé les personnages que je me suis dit, j'ai envie d'écrire un deuxième. Donc, j'ai proposé à l'éditeur un deuxième. Au début, l'éditeur n'était pas intéressé. Et puis j'ai réussi à le convaincre, et du coup, j'en ai fait un deuxième, et puis un troisième. Alors, du coup, la série s'est construite petit à petit, mais ce n'est pas du tout un plan de série au départ. C'est vraiment parce que j'ai pas pu lâcher l'histoire, j'ai pas pu laisser les personnages et j'ai eu envie de leur faire vivre d'autres aventures. Et du coup, il y en a le 18e vient de sortir, qui s'appelle Le Buveur de Manga. Et pour le moment, la série n'est pas encore clôturée. Tant que j'ai des idées suffisamment intéressantes pour écrire une autre, et je trouve que l'éditeur est d'accord aussi, bien sûr, parce qu'il y a aussi ça, je pense que je vais l'écrire encore au moins un ou deux, je pense.
À chaque fois, chaque épisode va parler d'un aspect du monde artistique et culturel, c'est bien ça ?
En fait, je parle à chaque fois de la nourriture des buveurs d'encre. Donc, ils ne peuvent se nourrir que, effectivement, de choses qui ont un lien avec la création et avec l'encre. Il faut un peu des deux. Ou la peinture. Bon, j'ai aussi un peu triché, voilà. Quand je me suis posé la question, est-ce qu'on peut voir des tableaux ? Là, évidemment, ce n'était pas vraiment de l'encre, ça peut être aussi de la peinture, mais du coup, c'est tout. Effectivement, ils se nourrissent beaucoup de création artistique.
Cette série, elle a 30 ans. Est-ce que, selon vous, les lecteurs d'aujourd'hui, ils ont d'autres attentes que les lecteurs du début de la série ?
Je n'en sais rien.
Vous avez pas, vous rendez pas compte d'une différence peut-être en rencontre ou alors c'est vraiment la même réception à chaque fois depuis 30 ans.
En tous les cas, ce que je vois, parce que maintenant c'est devenu un classique, donc il est beaucoup étudié dans les écoles en général, CE2, CM1, et ce que je vois, comme je fais aussi beaucoup de rencontres scolaires, et donc je leur pose des questions, parce que moi ça m'intéresse de savoir comment ils lisent la série, j'ai l'impression qu'elle n'a pas du tout vieillit et qu'elle leur plaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les salons du livre, je rencontre des adultes qui ont étudié le livre quand ils étaient jeunes. Et ils en ont tous un bon souvenir, ce qui est génial. C'est-à-dire que j'ai traumatisé personne.
Est-ce que ça va être adapté ?
Alors, il y a un projet, mais tout ce qui est projet...
On peut pas en parler ?
Je dirais pas avec qui, comme ça il n'y aura pas de souci, mais tous ces projets-là, en fait, c'était tellement aléatoire, ça demande tellement d'argent qu'il n'y en a pas beaucoup qui débouchent vraiment sur quelque chose de concret. Donc là, il y a un projet de long métrage, mais je ne sais pas si ça va aboutir.
D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile ou plus difficile d'inventer ou d'écrire pour les enfants que pour les adultes ?
Je pense pas que ce soit plus difficile. Il y en a qui savent très bien faire pour les deux. Il y en a qui savent... Il y a des auteurs adultes qui considèrent qu'écrire pour la jeunesse, c'est pas vraiment écrire, et qui considèrent que c'est facile, et qui se plantent complètement. Mais il y en a qui sont capables de faire très très bien les deux. Je pense que c'est pas plus difficile, c'est un petit peu différent, parce qu'on n'a pas tout à fait le même esprit, mais on peut écrire les deux, et non, c'est pas plus difficile.
Aujourd'hui, dans le vaste monde de la littérature jeunesse, beaucoup plus vaste qu'à votre arrivée, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous marquent davantage que d'autres ?
Aujourd'hui, je lis plus beaucoup de science-fiction, mais je lis beaucoup. Comme j'ai été longtemps bibliothécaire jeunesse, j'ai lu beaucoup de littérature jeunesse. Donc, je lisais mes collègues, mes confrères. Je lisais des albums jusqu'aux livres pour adolescents. Aujourd'hui, alors, je suis à la retraite depuis 2 ans. La retraite de bibliothécaire, hein, pas la retraite d'auteur. Parce que comme vous avez 2 métiers, j'en ai conservé un. Je lis moins de littérature jeunesse, donc je lis plus de livres pour les vieux. Et en fait, je suis très éclectique. Je n'ai pas du tout de... Il n'y a pas un seul domaine, un seul thème que je lis. Je suis très éclectique. Là, je vais dire Terre des Hommes, donc c'est un classique. Hein. Mais du coup, je passe de la science-fiction au fantastique, au roman réaliste, au polar. Il n'y a que les romans historiques qui m'intéressent moins. Voilà, c'est ça le truc.
Soit une bonne nuit. Et je m'en vais. La recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû les écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du funk et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, ça va à la recherche. Compagnon de mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Moi je m'en vais, la recette était mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son assiette. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Je prends ma casquette, puis 2 ou 3 cigarettes dans le paquet. Et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez bien réveillé, pensez à celui qui joue du funk et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon des mauvais jours, compagnon des mauvais jours. Je vous souhaite une belle nuit.
Voisin, vous dites que parfois que vous écrivez le matin, mais vraiment très tôt. C'est quand tout le monde dort encore dans la maison?
Alors, comme j'avais 2 métiers, forcément, j'avais pas beaucoup de temps d'écrire.
Donc, vous aviez 2 journées donc, aussi.
Il y a eu un moment où j'ai me levé à 5h. J'écrivais de 5h à 7h, avant ma deuxième journée. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Donc, je me lève plus tôt pour écrire. Mais c'est vrai qu'il y a une période de ma vie où j'étais obligé de me lever très tôt pour écrire, sinon j'avais pas le temps.
Et c'était un besoin pour vous d'écrire et de vous lever plus tôt ?
En fait, l'écriture fait partie de ma vie, puisque comme j'écris depuis que j'ai 10 ans, pour moi c'est comme une respiration. Donc quand on arrête de respirer, on meurt. Je pense que je peux pas m'arrêter d'écrire parce que c'est ma respiration. Voilà, c'est aussi fort que ça en fait.
Est-ce que vous préparez longuement vos romans avant de les écrire ? Est-ce que vous faites beaucoup de recherches ? Ou alors ça va être plus fluide ?
Alors, assez peu de recherches parce qu'en fait, je suis un feignant. J'aime bien écrire, mais alors, j'aime pas trop rechercher. C'est pour ça que les romans historiques me plaisent moins, parce que je me vois pas écrire un roman historique parce que j'ai pas envie de faire toutes ces recherches. Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui adorent faire des recherches et qui ont passé des mois à accumuler des documents, à lire, pour écrire des livres très particuliers. Moi, en fait, comme avant, j'imagine beaucoup de choses. Vu que j'écris du fantastique, j'ai une grande liberté. J'invente quasiment tout. Du coup, j'ai moins besoin de faire des recherches, à part quelques romans réalistes où j'ai dû faire des recherches parce que j'étais obligé. Sinon, je n'en fais pas et je pars. Je réfléchis pas longtemps. J'ai une idée, une envie, et je pars sans savoir ce que je vais raconter. Je pars à l'aventure.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'écriture ? Est-ce que c'est créer tout un univers ou plutôt des personnages ou encore autre chose ?
Alors, je crois que ce que je préfère, c'est créer des personnages. Parce que, pour moi, les personnages sont le principal d'un roman. Alors, le décor, ça peut être important, l'époque, mais si les personnages sont ratés, je pense que l'histoire sera ratée. Alors que si les personnages sont forts, même si l'histoire est moyenne, même si l'histoire n'est pas passionnante, ça peut suffire à ce qu'une histoire séduise un lecteur.
Est-ce que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur en ce moment ? Ou alors un projet particulier qui va arriver dont vous aimeriez parler avec nous ?
Alors en fait, j'ai plein de projets.
Ah oui ?
Des projets d'albums, des projets de romans. Déjà, écrire un prochain Bujardin, ça c'est un projet, c'est pas encore fait. Parce que en fait, j'ai proposé des thèmes, maintenant il faut que j'attende les réponses de l'éditeur pour vraiment m'y mettre.
D'accord.
Donc ça, j'ai déjà envie de faire un prochain Bujardin pour l'année prochaine, mais c'est de plus en plus difficile parce que les thèmes, j'en ai de moins en moins.
Eh oui.
Eh oui. Par exemple, j'avais proposé un thème qui était refusé parce que c'était un peu compliqué. Enfin, pour l'éditeur, c'était un peu compliqué. J'aurais voulu écrire Le Buveur de tatouages. Mais ça se fera pas, parce que l'éditeur s'est dit, les tatouages, c'est sur la peau, je sais pas qui les a gênés. Alors que moi, j'étais vraiment petit, je me suis dit, je vais aller en Nouvelle-Zélande, je vais parler des tatouages des tribus, hein, pas les tatouages juste pour le décor. Mais ils n'ont pas été d'accord, donc du coup, si on est d'accord l'éditeur, je peux pas le faire. Donc ça, je n'écrirai pas le buveur de tatouages.
Ouais, vous pouvez l'écrire pour vous.
Comment ?
Vous pouvez l'écrire juste pour vous ?
Mais c'est moins... Si je l'écris que pour moi, je pourrais pas le partager, c'est un peu moins excitant quand même.
Ouais.
Je pourrais le faire, mais bon. Et sinon, je viens de finir un roman plutôt pour grands ados, ça fait longtemps... Enfin, grands ados, oui, si, grands ados, ça fait longtemps que je n'avais pas écrit. Un roman très réaliste, alors c'est pas sur un thème particulier, parce que j'avais écrit un roman comme Le Parloir sur la prison et un autre sur les jeux dangereux. Là, à chaque fois, c'était le thème qui m'avait donné envie d'écrire. Là, c'est plutôt mi-polar, c'est un livre sur la relation en fait, entre les ados et le père, et leur père. Et donc ça s'appelle L'ombre de nos pères. C'est parce qu'en fait, c'est deux ados qui ont des problèmes particuliers avec leur père.
D'accord.
Des difficultés de relation. Mais du coup, c'est le lien qui fait le roman. Mais ça se passe dans un décor un petit peu de roman policier, quand même.
Et ce sera pour plus tard.
Maintenant, il faut trouver un éditeur.
D'accord.
Parce que moi, je ne travaille pas sur commande. Donc, quand j'écris une histoire, après, il faut que je trouve un éditeur.
Alors justement, vous avez évoqué Le Parloir. Et le fait que vous ne faisiez pas forcément beaucoup de recherches pour vos livres, là je pense qu'il y a quand même eu certaines recherches et que vous avez bien dû visiter une maison d'arrêt pour pouvoir écrire ce texte.
Alors en fait, il y a deux choses.
Oui.
Il y a le fait qu'en tant que bibliothécaire, je suis intervenu en maison d'arrêt pendant 15 ans.
D'accord.
Donc j'ai pas eu besoin de visiter une maison d'arrêt puisque j'y travaillais régulièrement. J'y allais à peu près une fois par semaine. Parce qu'en fait, dans les maisons d'arrêt, il y a des bibliothèques. Et donc on venait pour discuter avec les gens et puis pour demander ce qu'ils voulaient, pour leur ramener des livres de l'extérieur, en fait. Donc c'est cette expérience-là qui m'a vraiment donné envie d'écrire un livre qui se passe en prison. À partir du moment où j'ai voulu l'écrire, je me suis dit, bon, moi je voyais la prison, enfin, la maison d'arrêt comme ça, j'y rentrais, je restais 2 heures et je repartais. Mais je n'avais pas vraiment affaire au quotidien. Donc je me suis documenté, j'ai cherché beaucoup de blogs, de témoignages, de détenus, mais sur leur quotidien. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est le quotidien, la vie en prison. Bon, j'avais déjà une petite idée, parce que quand même, la maison d'arrêt, moi j'intervenais à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, qui est une maison d'arrêt très, très, très vétuste, et très, très, très surchargée. Donc ça, déjà, j'avais quand même une notion de cette réalité-là, et je me suis dit, la prison, ça doit être un décor de roman génial. Parce que les gens savent pas vraiment ce que c'est qu'une prison. Quand on y entre, ça fait une bonne impression, le bruit des clés, le fait qu'on on n'y rentre pas comme ça. Si on n'est pas attendu, on ne rentre pas. Et puis parfois, on ne sort pas. Par exemple, quand il y a un incident dans une prison, plus personne ne sort. Moi, une fois, je suis resté 2 heures enfermé dans la bibliothèque parce que il y avait une fouille, ils avaient trouvé des choses un peu compromettantes, téléphone, etc. Et du coup, tout était bloqué. Donc je suis resté enfermé dans la bibliothèque sans information. Parce qu'en fait, dans la bibliothèque, on est enfermé. Il faut sonner pour que le gardien vienne nous ouvrir. Et pendant 2 heures, plus personne n'est venu nous ouvrir.
Et donc, ce roman, il parle de l'histoire de Yann qui est enfermé à la maison d'arrêt et qui ne parle pas. Donc son histoire va se révéler petit à petit au fil des visites qu'il reçoit.
Alors l'histoire n'est pas réelle, hein. C'est une histoire complètement inventée. Oui. La seule chose qui est réelle, c'est le décor. Donc, moi, j'ai pas vraiment décrit la maison d'arrêt que je connaissais. En fait, j'ai fait un patchwork. J'ai choisi des choses donc, de différentes prisons pour inventer ma propre prison. Par exemple, les parloirs. Il y a différents types de parloirs. J'ai pas utilisé le parloir que je connaissais à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc. Voilà, j'ai choisi un parloir sous forme de cabine, mais en fait, Saint-Brieuc, c'est une grande salle avec des tables, et puis tout le monde est dans la même salle. Oui. Chacun a sa table, quoi. Donc du coup, j'ai fait un patchwork, j'ai construit ma propre prison. Et l'histoire est complètement, complètement inventée. Donc Yann ne parle pas parce que... Bon, il n'y a pas... Je n'explique pas pourquoi, mais c'était un petit défi en me disant, est-ce que tu es capable d'écrire un roman avec un personnage principal qui ne parle pas,
oui,
et non seulement il ne parle pas, mais en plus, on ne sait pas ce qu'il pense.
Et donc oui, vous avez réussi. Comment... c'est compliqué de décrire Yann alors qu'il ne parle pas.
Ben oui, en fait, tout intervient dans les rapports avec les autres.
Oui.
Au début, il s'appelle le parloir parce que je voulais faire que des scènes de parloir. Puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça ne marchait pas. C'était un peu trop enfermant et je n'y arrivais pas. Donc je l'ai ouvert, entre guillemets, sur l'intérieur de la prison. Sur ce qui se passe en cellule, sur ses co-détenus. Mais du coup, tout ce qu'on découvre sur Yann, c'est par rapport aux gens qui sont en face de lui.
Et en face de lui, il y a 2 adultes, notamment. Son avocat qui est commis d'office, un petit peu dépassé par le dossier.
Oui,
et sa mère aussi, qui n'est pas vraiment à la hauteur, hein, qui est plutôt démunie.
Bah, elle est dépassée aussi.
Ils sont tous dépassés. Et est-ce que pour vous, c'était important de montrer ces figures adultes qui sont imparfaites?
Parce que nous sommes tous imparfaits. Et en fait, les enfants s'en aperçoivent quand ils grandissent, un peu avant l'adolescence.
Allô? Allô? Oui, on s'était arrêté, ça a coupé au moment où vous disiez que les adultes étaient imparfaits et que les enfants s'en rendaient compte.
Oui, c'est ça. Pour dire. Ils disaient qu'effectivement, quand ils étaient petits, les parents étaient des dieux, mais qu'après, évidemment, en grandissant, ils s'apercevaient qu'ils avaient des défauts. Mais c'était surtout pour montrer que Yann était vraiment un petit peu seul quand même, malgré les personnages qu'il rencontrait, à part son avocat qui va finalement se révéler moins nul qu'il n'y paraissait, et sa sœur qui est prête à tout pour le sauver. Et c'est un des personnages lumineux de l'histoire, parce que les autres ne le sont pas tous. Hein. Évidemment, sa mère n'est pas un personnage lumineux. Mais c'était intéressant d'avoir des personnages contrastés. Des personnages qui vont l'aider, puis d'autres qui vont plutôt l'enfoncer, en fait.
Ouais, merci beaucoup. C'est aux éditions La Baliverne, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. En fait, il était paru aux éditions Grune, et puis ils l'ont arrêté. Du coup, il est sorti aux éditions Baliverne avec une très belle couverture, qui est très différente de la première, qui était originale, mais qui était plus adulte. Là, elle est plus ado, en fait.
D'accord, ouais, elle est chouette, cette couverture, mais je n'ai pas vu la première.
Alors, la première, en fait, elle était, c'était une couverture blanche, avec des trous, qui évoquait un isiaphone.
D'accord.
Donc c'était plus adulte quand même, et c'était moins parlant pour les ados, mais en même temps elle était très originale.
Bien, merci beaucoup Eric, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve en mai aux Éclats de lire ?
Non, je crois que c'est tout.
Je vous remercie et je vous dis à bientôt du coup pour le festival okay. Les Éclats de lire au mois de mai au Vigan.
Ok, ça marche, merci beaucoup,
au revoir.
Bonne semaine.